Donc nous avons comme sujet d'étude les premiers chapitres du livre de Néhémie. Les paroles de Néhémie, fils de Hakaliah. Et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que, comme j'étais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda. Et je les interrogeai sur les Juifs, les rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent, les restants qui sont demeurés de reste de la captivité, là, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre, et la muraille de Jérusalem est en ruine, et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Je menai deuil plusieurs jours, et je jeûnai, et je priai le Dieu des cieux, et je dis, « Je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le grand Dieu, grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment, et qui garde tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui devant toi, jour et nuit, pour les fils d'Israël, tes serviteurs, et la confession que je fais touchant les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi aussi, et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandées à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant, « Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Si vous revenez à moi et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vous dispersez serez jusqu'au bout des cieux, je les rassemblerai de là, je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et ta main forte. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Fais réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or, j'étais les chansons du roi. Il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, que je pris le vin et le donnai au roi. Je n'avais pas été triste en sa présence. Et le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage, et pourtant tu n'es pas malade ? Ce n'est que de la tristesse de cœur. » Alors j'eus extrêmement peur, et je dis au roi, « Que le roi vive à toujours. Pourquoi mon regard ne serait-il pas triste quand la ville, le lieu des sépulcres de mes pères, est dévastée, et que ses portes sont consumées par le feu. » Et le roi me dit, « Que demandes-tu ? » Et je priai le Dieu des cieux, et je dis au roi, « Si le roi trouve bon, et si ton serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie en Juda à la ville des sépulcres de mes pères, et je la bâtirai. » Alors le roi me dit, et la reine était assise à son côté, « Combien de temps durera ton voyage ? Et quand reviendras-tu ? » Et il plut au roi de m'envoyer, et je lui fixai un temps. Et je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, pour qu'il me fasse passer jusqu'à ce que j'arrive en Juda, et une lettre pour Asaph, gardien de la forêt du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire la charpente des portes du château fort attendant à la maison, et pour la muraille de la ville, et pour la maison dans laquelle je dois entrer. Et le roi me les donna selon que la bonne main de mon Dieu était sur moi.
Nous sommes devant un sujet une importance capitale concernant surtout le témoignage que nous avons à rendre ici-bas. Avant de parler directement de Néhémie, permettez-moi de faire une courte esquisse du passage important que nous trouvons dans le livre d'Esdras pour situer l'état moral du peuple d'Israël, c'est-à-dire des deux tribus de Juda et Benjamin, qui étaient en captivité à Babylone. Nous savons tous que la captivité de Babylone a été fixée par l'Éternel à 70 ans. Ils ont été amenés en 3 reprises, nous ne voulons pas détailler ces 3 reprises, mais le premier contingent a eu lieu en l'an 606 avant Jésus-Christ. Et au premier chapitre du livre d'Esdras, l'Éternel a réveillé l'esprit de Cyrus en l'an 536, qui feront donc ces 70 années. Et Cyrus a été un instrument dans la main de l'Éternel, et il pouvait dire que l'Éternel lui avait soumis tous les royaumes et qu'il l'avait chargé de bâtir une maison à Jérusalem. Quiconque est disposé de ce peuple, il a fait donc une proclamation disant, quiconque est disposé de monter à Jérusalem pour bâtir cette maison, donc qu'il monte ainsi à Jérusalem. Et une 50 000 du résidu qui était là à Babylone, revinrent donc à Jérusalem, et au 7e mois, la première chose qu'ils ont fait, c'est de bâtir l'autel et le placer sur son emplacement, qui nous parle de la communion avec Dieu, de rechercher la communion avec Dieu et de lui offrir des holocaustes. La deuxième année, ils ont posé le fondement du temple. Et à cette occasion, quand les fondements ont été posés, la jeune génération qui n'avait pas vu le temple de Salomon éclatait de joie, tandis que les vieillards qui avaient vu l'ancien temple de Salomon et toute sa magnificence pleuraient, de sorte qu'on ne pouvait pas discerner au loin les cris, la différence entre ceux qui éclataient en chant de joie et ceux qui pleuraient. Ensuite, après ce commencement de cette ardeur de bâtir le temple, les ennemis de Juda ont rendu lâche la main des travailleurs. Et par violence, ils ont fait cesser ce travail de la restauration du temple, et ce travail a été arrêté pendant 15 ans, jusqu'à l'année 519, où Dieu a suscité Agé et Zacharie pour revenir, pour encourager ce résidu de Juda à reprendre le travail. Et ensuite, ils se sont levés, donc ils étaient montés avec le premier contingent, ceux qui étaient remontés étaient montés avec Zorobabel et Jeshua, et eux, à leur tête, ont encouragé le peuple, et le temple a été terminé, achevé en 4 ans, en l'an 515. Depuis l'année 515, nous venons à l'année 468, 47 ans plus tard, où Dieu suscite Esdras pour monter à Jérusalem avec un nouveau contingent. Et Esdras était un scribe versé dans la parole pour ranimer la vie spirituelle de ce résidu, pour les enseigner, faire revenir à la loi de Moïse et à Dieu. Son ministère a été béni lorsqu'il a été là, il a purifié le peuple, et au 10e chapitre, donc après avoir mené deuil sur tout ce qui s'était écoulé depuis l'an 515, l'achèvement du temple à l'année 468, c'est 47 ans, que s'était-il passé? Eh bien, la muraille n'avait pas été rebâtie. Il n'y avait pas eu l'énergie nécessaire pour reconstruire cette muraille. Au contraire, le peuple s'était mélangé avec les nations et les hommes de Juda avaient pris des filles étrangères, de sorte qu'il y a eu une humiliation profonde et que les fils de Juda ont dû renvoyer leurs épouses, qui étaient des étrangères, soit des Ammonites, soit des Moabites, ou des Astodiennes, tous ces pays idolâtres. Ensuite, nous venons ici dans l'année 455, qui fait donc 13 ans après. Que s'était-il passé pendant ces 13 ans? Eh bien, nous voyons encore que le peuple n'a pas eu l'énergie nécessaire pour relever la muraille, et nous voyons ainsi que les versets que nous avons lus au début de ce chapitre, que quelques-uns étant revenus de Juda auprès de Néhémie, ils peuvent dire que le peuple est dans une grande misère et dans l'opprobre dû à leur iniquité, à leur conformité de ce monde, et que les murailles étaient dévastées et détruites et les portes brûlées. Maintenant, revenons à, ceci dit historiquement, revenons à Néhémie lui-même. Malgré que Néhémie était en captivité, il avait son cœur pour l'Éternel et avait à cœur ce résidu qui était monté à Jérusalem. C'était un homme pieux qui désirait en effet le bien de ce peuple. Et en apprenant ces choses, il mène deuil. Il prend la place qui convient devant Dieu. Malgré qu'il aurait pu rester là auprès d'Artaxerxès, dont il était l'échanson, il a été tellement exercé que non seulement il a prié, mais le Seigneur lui a mis à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem. On peut dire un travail colossal qu'il entreprend lui-même, mais on voit qu'il avait à cœur les intérêts de l'Éternel. Et maintenant, quant à nous-mêmes, ces chapitres nous montrent bien l'état de ruine dans lequel nous sommes tous tombés. Nous devons prendre place et nous asseoir comme Néhémie et mener deuil de la ruine qui nous caractérise tous. Mais que le Seigneur nous accorde la grâce d'être semblable à un Néhémie qui, en effet, pesant et calculant la dépense, a eu à cœur de se lever pour venir rebâtir les murailles de Jérusalem. Quant à nous-mêmes, si Néhémie est un exemple, nous avons le Seigneur qui, lui-même, a quitté la gloire pour venir nous sauver, nous délivrer, nous amener de ce pays d'esclavage dans la proximité d'un Dieu que nous connaissons comme Père. Et c'est ce Dieu Père qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Eh bien, que nous ayons du cœur pour Dieu notre Père, qui nous a constitué ses bien-aimés enfants. Que nous ayons du cœur pour le Seigneur qui s'est sacrifié lui-même pour nous d'indignes pécheurs, pour nous amener à lui, pour nous constituer son épouse. Que nous ayons à cœur l'assemblée qui est si chère à son cœur, et que nous ayons aussi à cœur les âmes qui périssent, et auprès desquelles nous sommes comme des ambassadeurs pour proclamer et annoncer cet évangile de la grâce et de l'amour de Dieu. Nous sommes ainsi devant un chapitre, un livre qui doit stimuler nos cœurs par amour pour le Seigneur et pour le glorifier, et pour désirer ce que nous chantons dans un cantique. Seigneur, toi qui pour nous t'offris en sacrifice, remplis-moi de ferveur pour mettre à ton service mes jours, mes biens, mon corps et mon cœur. Que le Seigneur en effet opère cette merveille de grâce au début de ses études.
D'après les dates qui viennent de nous être données, voyons donc que ce livre est le dernier aperçu que l'Ancien Testament nous donne sur l'histoire passée du peuple terrestre de Dieu. Et sous l'angle de la responsabilité, il est bien solennel de voir en effet cet état de ruine. Mais cela nous parle à nous, n'est-ce pas, qui sommes à la fin d'une période celle de l'histoire de l'Église responsable sur la terre. Il y a donc une grande analogie, en effet, et beaucoup d'enseignements moraux, spirituels, à recueillir de l'étude d'une telle portion de l'Écriture. On a pu faire des rapprochements et nous aurons l'occasion d'en faire certainement avec la deuxième épître à Timothée qui nous présente également le chemin de Dieu, le chemin qui peut être suivi par un homme de Dieu ou par ceux qui désirent de rester fidèles dans un temps où la responsabilité de l'homme a totalement failli. Alors Néhémie, et c'est bien, bien encourageant, son nom même signifie consolation de l'Éternel. Consolation de l'Éternel. C'est tout un programme, c'est tout. On pourrait dire, nous avons là comme presque le résumé de ce livre. Et nous pensons au Consolateur qui a été laissé à l'Église pour le temps de l'absence du Seigneur. Un consolateur venu au moment convenable, apporté d'en haut, du ciel, ce qui était nécessaire, qui correspondait à un état. Et Néhémie, c'est un homme de Dieu qui a été suscité à un moment, et Dieu se plaît à appeler ses serviteurs, et en leur génération, comme il est dit de David dans le livre des Actes, pour un service particulier. Le regard de Dieu repose sur les siens, il connaît l'état de leur cœur, leur intérêt personnel pour le peuple de Dieu, et c'est ce que nous verrons dans ce serviteur qu'est Néhémie. Un profond intérêt pour les intérêts du Seigneur, pour sa gloire, pour son peuple, pour Jérusalem. En Néhémie lui-même, nous aurons beaucoup d'enseignements à recueillir chacun pour son propre compte. Dernier point, peut-être là à signaler, c'est aussi l'importance de ce livre sur le plan prophétique. C'est en effet le point de départ des 70, des 70 semaines de Daniel, du chapitre 9 de Daniel, où les murailles et le fossé sont rebâtis, et cette date qui inaugure donc la période qui, pour la plus grande partie, s'est écoulée, les 69 semaines sont écoulées, la dernière est encore à venir. Mais si on regarde attentivement les dates qui nous ont été communiquées, en particulier celles qui se trouvent dans la note en bas de page 455, le compte donne bien le point de départ des 69 semaines jusqu'au moment où le Messie sera retranché et n'aura rien, comme il nous est dit en Daniel 9. Et ce passage de Daniel 9 nous parle d'un temps de ruine, et c'est bien ce qui caractérise l'état du résidu et de la ville de Jérusalem tel que le tableau nous en est fait ici.
Par la grâce de Dieu, nous avons une parole qualifiée de vivante et permanente, de telle sorte que les pages qui nous retracent des circonstances les plus anciennes ou nous donnent des instructions très anciennes n'ont rien perdu de leur actualité, bien au contraire. Sans doute, nos conditions d'aujourd'hui, la nature de nos relations avec Dieu sont plus privilégiées encore qu'étaient celles d'un peuple terrestre, d'où une responsabilité accrue. Mais les pensées de Dieu demeurent les mêmes, la nature de Dieu n'a pas changé, ses pensées sont inchangées et sa parole se plaît à nous les transmettre dans leur intégrité et les enseignements, comme on vient de l'entendre, de caractère moraux et spirituel, conservent toute leur actualité. Nous ne saurions dire ces choses sont surannées, elles ne sont plus pour nous. Ces livres d'Esdras et Néhémie mettent un accent particulier sur deux pensées divines qui parcourent toutes les Écritures, à savoir le gouvernement de Dieu et la grâce de Dieu. de pensées qui ne se contrarient jamais, qui ne s'annulent pas l'une par l'autre. La grâce de Dieu n'annule pas la sévérité de son gouvernement et l'inflexibilité du gouvernement n'altère pas le parfum de la grâce. Et cela se voit depuis la chute de l'homme en Éden jusqu'à la fin de l'histoire de la responsabilité de l'homme. Ainsi Israël, peuple terrestre de Dieu, privilégié et responsable, a démontré son infidélité en transgressant la loi par la spoliation du temple et la ruine spirituelle, son détachement de l'Éternel, de telle manière qu'après de multiples mises en garde, avertissements par les prophètes, comme nous le dit le dernier chapitre du second livre des Chroniques, il n'y avait plus de remède. De telle manière que ce peuple a été déporté de sa terre en deux phases. La première, les 10 tribus ont été transportées en Assyrie sous Shalmaneser en 721, alors que, comme on vient de l'entendre, les tribus de Juda et de Benjamin l'ont été en Babylonie en 606. Ces 70 ans ne sont pas un chiffre arbitraire, ils correspondent aux années sabbatiques dont l'Éternel et le pays avaient été frustrés. Et la grâce de Dieu alors, à la suite de l'exercice de ce sévère gouvernement, apparaît, se démontre en réveillant l'esprit de Cyrus, appelé le berger, et en réveillant l'esprit du peuple pour que tous ceux qui auraient à cœur de remonter en Judée puissent le faire librement. C'est ce qui nous a été dit donc au début de ces moments. Les livres d'Esdras et Néhémie, sans en rappeler à nouveau le caractère, sont donc d'aspect général distinct. Le livre d'Esdras nous parle du rétablissement sur le plan religieux, dirons-nous. On y voit le terrain retrouvé, pratiquement et géographiquement en Esdras, mais dans son sens spirituel, les bases sur lesquelles la bénédiction peut être retrouvée, elles sont toujours inchangées, comme c'était le cas pour un Abraham qui a dû revenir où était la tente et l'autel auparavant. Il fallait rechercher l'endroit où l'autel devait être réédifié, première chose, car c'est ce à quoi s'attaque particulièrement l'ennemi, c'est d'arrêter l'adoration d'un peuple, le culte rendu. On recherche l'autel qui est réédifié, on réédifie la maison de l'Éternel, non pas une maison, mais toujours la maison, au cours des économies, au cours des siècles. Comme on l'a entendu également, la persévérance et la fidélité ne sont pas des vertus cardinales du peuple de Dieu. Nous sommes plutôt caractérisés par les fluctuations dans nos dispositions. Un moment, il y a du zèle, ensuite il y a le découragement, et l'ennemi sait s'emparer du découragement pour faire des menaces, des accusations, pour que l'œuvre de Dieu soit arrêtée. C'est ce qui fut le cas dans la construction du temple. Mais dans le livre de Néhémie, nous avons le rétablissement sous un autre aspect, le rétablissement civil du peuple, et nous n'avons pas ici un homme de race sacerdotale, mais un gouverneur. C'est le rétablissement civil et un des objets principaux de ces chapitres qui vont nous occuper, ce sera la reconstruction, la réédification de la muraille et des portes qu'elle comporte, ce qui met en évidence cette séparation d'ordre spirituel, moral, d'un peuple appartenant à un Dieu saint, d'avec un ensemble qui laisse de côté ce qui lui est dû. Néhémie est un homme qui n'est pas sans défaut. Il a sa nature, comme nous l'avons tous, et il n'est pas sans défaut. Néanmoins, il a des vertus que la grâce de Dieu lui ont octroyées et qui font de lui un conducteur remarquable. Ce qui l'anime, c'est le zèle. Une persévérance et un zèle que rien ne sait arrêter, et une conscience des droits divins qu'il a à cœur que ces droits soient retrouvés, respectés, quoi qu'il puisse en coûter. Et c'est ce que nous verrons avec Néhémie, qui est d'un tempérament très différent de celui d'Esdras. Ceci se voit dans un détail bien simple. Esdras s'arrache les cheveux quand il voit l'état du peuple, tandis que Néhémie arrache les cheveux de ceux qui sont désobéissants. Ce sont des tempéraments différents, mais ils œuvrent la même chose dans le même but, ils sont animés du même zèle. Et c'est ce que nous avons à voir chez Néhémie, qui souffre En cela, nous avons une instruction combien précieuse et actuelle pour nous, qui souffre en voyant l'état du peuple dans lequel il est tombé à cause de son manque de vigilance.
Que Néhémie était déjà de tout temps caractérisé par ce zèle pour les intérêts de l'Éternel. Il devait être déjà reconnu comme tel. Et c'est quelques-uns qui reviennent de Jérusalem. La première question que Néhémie leur pose, qu'en est-il donc de ces réchappés qui sont restés donc en Judée? La première question, c'est les intérêts de l'Éternel qui l'occupent, et c'est la première question qu'il leur pose.
Un cher frère qui nous visitait alors que nous étions encore fort jeunes introduisait ce livre de Néhémie avec le psaume 122 dans son verset 6. Ceux qui t'aiment prospéreront.
On a pu dire dans le même courant de pensée que Dieu choisit ses instruments pour assurer des délivrances à son peuple parmi ceux qui aiment ce peuple, dont le cœur est sensible à tout ce qui se passe au sein de ce peuple, car il est le peuple de Dieu. Et chacun, selon le don qui lui a été communiqué, va avoir de nombreuses occasions de montrer qu'il aime le peuple de Dieu. Pour Esdras, ce qui était essentiel, c'est que la loi de Dieu lui soit communiquée, les principes divins, l'enseignement, les commandements de l'Éternel. C'est le serviteur fidèle qui découpe droit la parole et qui la présente au peuple pour son bien moral et spirituel. Pour Néhémie, c'est un homme actif, un homme zélé, comme nous l'avons vu, et il a en même temps un cœur extrêmement sensible. Tout le chapitre premier nous le démontre. Cette sensibilité le pousse à prendre intérêt à l'égard de ce peuple, de ce petit résidu qui reste à Jérusalem. Et nous avons là dans cette interrogation quelque chose de ce qui est donné aussi en Malachie 3, où ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel a été attentif. Une tactique de l'ennemi aujourd'hui, comme du temps de Néhémie, c'est de nous rendre indifférents vis-à-vis de tout ce qui peut se passer au milieu du peuple de Dieu. Car le fait d'avoir à cœur les droits du Seigneur impliquera notre engagement de cœur pour la gloire de Dieu, pour désirer maintenir les droits du Seigneur au milieu de l'Assemblée. C'est ainsi que le peuple de Dieu peut être heureux et béni. Lorsque il a, pour ainsi dire, l'autel sur son emplacement pour donner à Dieu la gloire qui lui revient dans ce culte qui lui est offert sur la base des sacrifices sanglants, et puis un peuple séparé du monde qui l'entoure et sur lequel il y a aussi des hommes de Dieu qui veillent pour qu'il soit préservé de toutes les influences venant de ce monde. D'où la nécessité de cette muraille pour faire échec à l'ennemi et en même temps préserver le peuple de Dieu de tout élément étranger. Car depuis le début du christianisme, on peut le dire, le travail de l'ennemi a consisté à corrompre le peuple de Dieu, à introduire dans son sein des doctrines étrangères, des fausses doctrines, des faux docteurs. Et ainsi, il sait très bien que lorsque l'erreur est tolérée au milieu de son peuple, il en résultera la division, la dispersion de ce peuple. Alors que la pensée profonde de Dieu, c'est de le rassembler autour de lui, dans sa présence, pour le bénir. Mais Dieu est saint, Dieu est juste, et son peuple aussi est saint et est appelé le Jeshurun de l'Éternel, un peuple juste et droit. Et c'est ainsi que Dieu peut se révéler à son peuple pour le bénir. Nous voyons donc au chapitre 1er de Néhémie, le cœur de Néhémie, qui bat de toutes ses fibres pour la gloire de Dieu et pour le bien de son peuple. Et comment cela se traduit-il? Tout d'abord en s'informant de son état de santé, on peut le dire, moral et spirituel, et d'autre part, en priant pour lui, en confessant ses fautes et en exaltant en même temps, cela peut aller ensemble, la fidélité constante de Dieu. Dans le chapitre 2, c'est plutôt la foi de l'homme de Dieu qui va entrer en activité. Une fois qu'il s'est humilié, qu'il a confessé ses fautes, celles de son peuple, car il ne se dissocie pas du peuple, et c'est un signe aussi que l'instrument est de Dieu, lorsqu'il prend part à ses souffrances du peuple de Dieu, nous voyons ensuite un serviteur prêt pour agir, parce qu'il s'est tenu devant Dieu dans l'humiliation, dans la confession, dans la prière. Et sa foi va lui permettre d'aller jusqu'à Jérusalem après avoir informé le roi. Et là encore, c'est un homme qui s'attend à Dieu, qui avoue sa faiblesse, qui a besoin de compter sur lui pour être conduit jusqu'à Jérusalem. Et lorsqu'il est là, la foi est encore en activité pour faire le tour de cette ville en ruine. Et il n'a plus besoin de l'aide d'Artaxerxès, de ses troupes. Il est là tout seul avec sa bête, considérant les ruines de lui-même, pas de loin, mais de près, si on peut dire. Et là, nous avons toute l'énergie de la foi pour voir l'état de choses tel que Dieu le voit. Et après, au chapitre 3, c'est l'activité de l'homme de Dieu qui va être l'impulsion pour que d'autres avec lui puissent se joindre à lui avec cette déclaration combien extraordinaire, « Levons-nous et bâtissons ». Sa foi lui avait indiqué, pour ainsi dire, ce qu'il devait faire vis-à-vis de ce peuple, comment s'adresser à lui, comment communiquer avec lui, pour que chacun soit réveillé dans son cœur pour construire cette muraille et bâtir cette ville. Et ensuite, il y a les ennemis qui se présentent, ennemis du dehors, au chapitre 4, d'où l'énergie de cet homme de foi qui va résister contre vents et marées devant tous les assauts multipliés de l'ennemi qui utilise les mêmes tactiques que celles d'aujourd'hui, le mépris par rapport au peuple de Dieu, la moquerie, tout, la force aussi, les menaces. Tout cela vient de l'ennemi, et Néhémie en est pleinement conscient, et il se tient devant Dieu, il tient ferme, il veille à ce que ces hommes aient non seulement des instruments, la truelle pour construire la muraille, mais aussi une arme dans l'autre main pour se garder des attaques de l'ennemi. Et au chapitre 5, c'est l'ennemi du dedans, cette fois-ci un obstacle aussi très sérieux, et d'ailleurs, ces chapitres 4, 5 et 6 se déroulent dans le même temps, il faut bien le souligner, où se réalise la construction de la muraille. Et pour ses ennemis du dedans, il va faire preuve d'un désintéressement que seule la foi peut exprimer. Il est là, ne cherchant pas ses propres intérêts, mais le bien de ses frères. Il est pour ainsi dire un exemple, un modèle dans l'expression de cette foi pleine d'énergie pour ne pas se laisser corrompre en quelque sorte en aucune manière. Et enfin au chapitre 6, c'est aussi des attaques personnelles, et là, sur le plan des attaques personnelles, que chacun qui a à cœur l'œuvre de Dieu aujourd'hui ne peut pas ne pas connaître, que va-t-il faire? Eh bien, il reste ferme dans sa foi, il ne se laisse pas attirer dans la vallée d'Ono ou aller s'enfermer dans le temple. Il est là, ferme, s'attendant à son Dieu et ne se laissant pas entraîner dans des pièges qui lui sont tendus. Et enfin, au chapitre 7, eh bien, c'est toute la persévérance de la foi de l'homme de Dieu qui compte sur Dieu envers et contre tout pour mener à bien cette œuvre, ce grand travail qui lui était confié. Il est conscient qu'il a reçu quelque chose de la part de Dieu et il le fait valoir pour sa gloire.
On peut donc bien appliquer à Néhémie ce qui nous est dit de Moïse dans le grand chapitre de la foi, c'est-à-dire le chapitre 11 des Hébreux, qu'il a choisi plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir pour un temps des délices du péché. Il y a une analogie entre la position de Néhémie et celle de Moïse. L'un et l'autre se trouvent à la cour du roi. Moïse, sans doute, position encore supérieure. Mais Néhémie était chanson du roi, c'est-à-dire un poste de confiance dans un temps où le poison pouvait facilement venir à bout d'un roi et où ils étaient sur leur garde, n'est-ce pas, en choisissant ceux qui les approchaient. Et rien n'aurait été plus facile que de profiter de cette position d'être échanson du roi. C'était donc un poste de grande confiance. Voilà un homme qui était donc à l'abri de toute difficulté. Eh bien, il choisit, lui aussi, d'être dans l'opprobre avec le peuple de Dieu. Et pourquoi? Eh bien, parce que c'est justement le peuple de Dieu. Son état de ruine n'empêche pas que c'est le peuple de Dieu. Bien que ce soit un temps où le prophète Osée, la part de Dieu, prononçait le lot ami, pas mon peuple. Mais malgré tout, le regard de Dieu est sur ce résidu, sa bonne main, son intérêt pour ce peuple. Et Néhémie s'identifie aussitôt avec ce peuple, qui est celui de Dieu. Pourquoi l'Assemblée a-t-elle du prix pour nos cœurs? Eh bien, parce que c'est celle du Seigneur. Ce n'est pas une communauté de personnes ayant ensemble des vues semblables, même sur la parole de Dieu. Mais c'est le témoignage du Seigneur. Et c'est le fait qu'il y a là les intérêts du Seigneur qui sont concernés. C'est cela qui le rend cher à nos cœurs et qui fait que nous y prenons intérêt. Et on voit cet intérêt se traduit par des larmes d'abord, ensuite par des prières d'humiliation, réalisant ce « nous avons commis le péché contre toi, nous avons très mal agi, nous n'avons pas gardé les commandements », ce qu'on trouve à la fin du verset 6, verset 7. Une prière qui est une prière de confession. On prend sur soi, même si on n'a pas participer d'une manière directe aux fautes que l'on peut constater autour de soi, on prend cela sur soi. Et c'est aussi pour nous un enseignement bien important, parce que nous sommes, quand nous parlons de ruines, l'ensemble de l'Église, sans doute, est concerné, la chrétienté tout entière. Donc, pas perdre de vue que nous en faisons partie et que nous avons travaillé à cette ruine aussi et que nous pouvons prendre sur nous cet état actuel, en souffrir. Ce qui porte le nom du Seigneur aux yeux du monde entier, ce qui porte le nom de chrétienté, le nom de Christ, est dans un état aujourd'hui épouvantable. Eh bien, nous avons à mener deuil et non pas à nous dire, eh bien, nous sommes restés à l'abri, nous sommes attachés à la parole plus que les autres et voilà, nous avons gardé les principes du rassemblement. On est vite content de cela. Le Seigneur nous donne de sentir l'ensemble de l'Église responsable et de porter ce deuil, cette ruine, même si nous ne nous sentons pas directement concernés par tout ce qu'on voit autour de nous, cléricalisme ou abandon de principes moraux, introduction de toutes sortes de choses. Nous faisons partie de cette chrétienté responsable.
Il est aussi remarquable que nous puissions constater le bas état du peuple de ceux qui sont là. Le Seigneur, à son retour, devait trouver un peuple dans ce pays, non pas un désert. Et nous trouvons, évidemment, nous l'avons rappelé tout à l'heure, Cyrus est appelé mon berger au chapitre 44, il est appelé mon oin au chapitre 45, début, mais dans deux passages différents, nous avons cette expression dans Matthieu au chapitre 5, dans le psaume 48, Jérusalem, la ville du grand roi. Il est certain que le Seigneur Jésus sera le roi des rois dans un jour futur. Mais il devait, pour la dignité du Messie, Il convenait que ce peuple soit repeuplé et que par conséquent, il y ait non seulement l'autel rebâti sur son emplacement, la maison reconstruite, mais les murailles remises en état. Et le peuple qui pourrait habiter là serait la manifestation des relations publiques officielles d'un peuple avec son Dieu.
Dans le courant de ce qui vient d'être dit, j'aimerais, et en relation aussi avec ce qu'on a dit dans l'introduction, en disant que dans Esdras, nous avons le côté, l'aspect religieux, et dans Néhémie, l'aspect civil, si nous pouvons dire ainsi, j'aimerais, par quelques versets, nous montrer ce que cela signifie pour nous. Cela est bien connu de la plupart d'entre nous, mais peut-être que cela peut être utile pour l'un ou l'autre de voir ce que ces livres signifient pour nous. On y a fait allusion, mais j'aimerais citer quelques versets. Le verset qu'on a déjà cité de Esdras 3, quand il est dit au verset 3, « Ils établirent l'autel sur son emplacement. » Ce mot « emplacement » est très important. Il se trouve depuis le début de l'histoire du peuple racheté, quand le peuple a traversé la mer Rouge et qu'il chante ce cantique en Exode 15. Déjà là, il est annoncé prophétiquement, nous le trouvons au verset 17, « Tu les introduiras et tu les planteras sur la montagne de ton héritage, le lieu, la note nous dit le lieu fixe, et c'est le même mot que « emplacement », le lieu fixe que tu as préparé pour ton habitation au Éternel, le sanctuaire au Seigneur que tes mains ont établi. » Et nous voyons alors dans l'histoire du peuple, quand ces choses sont établies, quand ce qui est annoncé dans ce cantique est établi, nous pouvons juste lire dans le second livre des Chroniques, au chapitre 3, nous voyons que Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'aire d'Ornan le Jébusien, et il commença de bâtir le second jour du second mois. Sur l'emplacement de l'autel, où David, nous nous rappelons pourquoi il avait dû offrir ce sacrifice sur l'aire d'Ornan, parce qu'il avait ordonné le dénombrement et que la peste était venue sur Israël. Eh bien, ce lieu fixe est celui de l'autel et celui aussi où la maison de l'Éternel a été construite. Et nous voyons ensuite dans le livre, quand il y a la prière de Salomon, après la construction du temple, en 2 Chroniques 6, ou peut-être c'est dans le livre des Rois, quand il fait sa prière, Salomon dit, « Si ton peuple a péché, et que de ce lieu fixe, il y a de nouveau cette pensée, le lieu où Dieu a établi l'autel et le temple, c'est le lieu fixe, c'est un seul lieu. » Et si cela était vrai pour les fils d'Israël, nous le voyons en Esdras, quand le rétablissement des choses arrive, il n'y a pas un lieu laissé au choix des fils d'Israël, il y a un emplacement de l'autel. Eh bien, nous trouvons la même pensée dans le Nouveau Testament. Et cette pensée est exprimée par un mot bien précis qui est rendu par « ensemble » ou « dans un même lieu ». Et j'aimerais juste lire un ou deux passages pour montrer cela. D'abord dans le livre des Actes, au chapitre 2, au verset 1. « Le jour de la Pentecôte, au moment où l'assemblée est constituée, le seul corps est constitué, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. » Et cette expression « dans un même lieu » va caractériser l'assemblée. Ensemble, dans un même lieu. Nous retrouvons cela, par exemple, en 1 Corinthiens 14, l'épître qui nous parle du fonctionnement de l'assemblée, au verset 23, « Si donc l'assemblée tout entière se réunit ensemble, c'est caractéristique de l'assemblée. » Et je peux juste mentionner en passant, au verset, à la fin du chapitre 2 des Actes, quand il est dit, « Le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée. » La note nous dit, « ajoutait tous les jours ensemble et mettait ensemble. » Voilà ce qui caractérise l'assemblée. Et voilà sur quel emplacement est l'autel. Et nous savons de quoi nous parle l'autel, deux choses. Le mémorial, ce qui est dessus, et la communion. Et cela nous montre bien que l'autel, qui est aussi appelé dans l'Ancien Testament la table de l'Éternel, nous parle de la table du Seigneur. Et nous pouvons bien dire, c'est l'aspect religieux. Bien que nous hésitions un peu à utiliser ce mot, mais nous comprenons bien dans quel sens nos frères l'ont utilisé. Et alors pour la muraille, c'est la même pensée. On retrouve aussi, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la pensée de Dieu en relation avec la muraille. Si nous voyons le livre de Néhémie, il y a été fait allusion au verset 5 du chapitre 2, que le roi m'envoie en Jérusalem à la ville des sépulcres de mes pères et je la bâtirai. Nous voyons que la muraille est en relation avec la ville. On ne met pas une muraille autour de rien. La muraille est en relation avec la ville qui est en relation avec le temple. Et nous savons aussi, notamment par Apocalypse 21, chacun de nous connaît ce passage où au moment où l'apôtre Jean, il lui est présenté l'épouse, la femme de l'agneau, il la voit sous forme d'une cité. Parce que dans l'Apocalypse, il s'agit de l'administration, du gouvernement. Et c'est cela qui est exprimé dans la pensée de la cité. Et nous savons que cela se trouve en relation avec l'Assemblée. La seconde fois qu'il est parlé de l'Assemblée, en Matthieu 18, dis-le à l'Assemblée. Et s'il ne veut pas écouter, qu'il te soit comme quelqu'un des nations. L'Assemblée a une autorité, l'Assemblée a à gérer, à administrer. Et c'est dans ce sens qu'elle est vue en relation avec la muraille. Et alors, simplement deux mots pour terminer. La muraille se retrouve aussi dans ce que Dieu établit d'une façon parfaite. Apocalypse 21, verset 9. « Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la sainte cité, Jérusalem, descendant du ciel auprès de Dieu. » Et nous voyons au verset 12, elle avait une grande et haute muraille. Et nous voyons au verset 21, et les 12 portes étaient 12 perles. Et nous voyons au verset 27, et il n'y entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge. Avant, il nous a dit que les portes ne sont jamais fermées parce que la nuit ne vient pas. Mais nous voyons la pensée de la muraille, la séparation, que aucune chose souillée n'y entre. Et les portes, nous savons ce que cela signifie, c'est là qu'étaient les juges. C'est le jugement, c'est l'administration. Et en relation avec l'Assemblée, nous trouvons la même chose. Au début de l'Assemblée, nous lisons en acte 5, nous connaissons le récit d'Ananias et de Saphira, et comment, et là c'était dans la perfection de ce que Dieu avait établi, comment on peut dire cette muraille de sainteté a été manifestée par le jugement qui s'est exercé. Et au verset 13 de acte 5, nous lisons « Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Donc nous voyons d'une part, nous pouvons dire le culte, l'adoration, et d'autre part, l'administration confiée à l'Assemblée dans sa perfection quand Dieu l'a établie, et dans ce que, une fois que cela a été confié à l'homme, l'homme, nous en avons fait. Mais quelle chose merveilleuse de voir qu'il y a toujours, pour Dieu, un moyen, non pas en gloire et en grandeur, mais comme Néhémie dans l'humiliation et dans le deuil, d'obéir à ce que Dieu a donné. Et Néhémie aurait pu se dire « à quoi bon ?» Cela ne vaut plus la peine. Mais ce qu'il y a de très beau, c'est que nous voyons que pour Dieu, cela vaut toujours la peine. Dieu ne juge, n'apprécie pas ce qui est fait par les siens d'après la gloire du résultat extérieur, mais d'après ce qui est fait pour lui en obéissance à sa parole.
Il est en effet très beau, comme on vient de le souligner, en 2 Chroniques 3, de constater que la base de l'habitation divine et de toutes les bénédictions qui s'y rattachent, c'est Christ et son œuvre. C'est le fondement moral de la maison de Dieu, à savoir Morija, Christ s'offrant à Dieu, et l'air d'ornant, le sacrifice qui répond aux exigences de Dieu quant au péché, de sorte que l'épée peut être rentrée dans le fourreau. Ce sont les bases sur lesquelles la maison de Dieu trouve sa réalisation. Dans ce chapitre 3 qui est évoqué, sans vouloir allonger, mais ce sont des pensées précieuses et actuelles. Nous assistons à ce que nous appelons communément un réveil. Un peuple qui a été réveillé, qui aspire à retrouver les bénédictions perdues par sa propre faute, mais qui doit réaliser qu'elles ne peuvent pas être retrouvées dans n'importe quelle condition. Il y a un terrain, spirituellement parlant, ici géographique, mais spirituellement parlant, un seul terrain sur lequel les choses peuvent être réédifiées et la bénédiction retrouvée parce qu'il y a approbation divine. Et il faut le rechercher. L'autel est détruit. Les murs sont détruits. La maison en elle-même, matériellement, est détruite. Mais l'emplacement, personne ne peut le détruire. Il faut le retrouver. Et ce que l'on pense parfois lorsqu'il y a un retour, un réveil, après un temps difficile, des passages au fond de la vallée, on pourrait penser, eh bien maintenant, il faut quand même être un peu tolérant, il faut lâcher du lest, être un peu moins intransigeant, mais nous n'avons rien de semblable dans ces chapitres. Et il y a lieu de souligner dans ce chapitre 3 d'Esdras qui a été cité, que lorsque les choses, on recherche l'emplacement, qu'on pose les bases, deux fois il est dit qu'on établit des surveillants. On ne retrouve pas une bénédiction légèrement ou selon nos propres pensées. Il y a des surveillants qui sont établis pour que les choses soient faites conformément aux enseignements divins. On ne les fait pas non plus de manière désinvolte, légère, et il suffit de lire le verset qui suit, lorsqu'on pose ses bases, lorsque ceux qui baptisaient posèrent les fondements, c'est le verset 10 du chapitre 3, on fait assister les sacrificateurs, vêtus, revêtus de leurs robes, avec les trompettes, et les lévites, fils d'Azaph, avec des cymbales, pour louer l'Éternel selon les directives de David. Donc il n'y a rien qui est laissé à l'initiative de l'homme ou à sa légèreté qui nous caractérise si facilement. Surveiller selon les directives de David, et on le fait avec sérieux et avec convenance. Les sacrificateurs sont là avec leur robe. Tout cela nous montre que, quels que soient les temps, or il s'agit des temps de petites choses et de faiblesses, Dieu n'abaisse jamais le niveau de sa sainteté et de ses exigences. C'est un même Dieu dans tous les temps. C'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. Et lorsque le peuple a transgressé, a été idolâtre sous la conduite d'Aaron et que les tables ont dû être brisées, l'Éternel va donner des deuxièmes tables, mais avec des paroles moins exigeantes, qui traduisent moins les droits divins, pas du tout, selon les mêmes paroles qui étaient sur les premières. Dieu n'a pas abaissé son niveau de sainteté. Il en est de même donc dans ce chapitre 3 d'Esdras, il en est de même aujourd'hui, nous avons affaire à un Seigneur de gloire auquel nous devons les droits. Et dans le cadre de son témoignage, de son assemblée, un des caractères qui doit nous tenir à cœur, c'est que ses droits et sa gloire sont engagés là. Et c'est dans la mesure où nous en serons conscients et désirerons de cœur, avec le secours de sa grâce, en réaliser quelque chose, que la vraie joie, celle qui vient du Seigneur seul, peut être trouvée accompagnant la bénédiction qui suit son approbation. Il y a donc des surveillants. Une autre pensée, si l'on revient à Néhémie, au début de notre chapitre. Voilà donc un homme qui a un poste très élevé. Il est un homme qui vit dans l'intimité du roi, un homme en qui le roi a la plus grande confiance, comme on vient de l'entendre. Il a un poste que personne ne peut lui ravir, qui est sûrement envié de beaucoup. Il est, dirons-nous, confortablement établi. Est-ce que tous ces avantages vont ternir dans son cœur, amoindrir son intérêt pour Jérusalem et son peuple? Loin de là. Ses affections sont là. Et nous voyons par cela aussi que des croyants, en dépit d'une abondance d'occupations, en dépit même de grandes responsabilités quant aux choses professionnelles, cela n'enlève rien si leurs affections sont engagées pour Christ, d'être profondément occupés, intéressés, sensibles à tout ce qui touche le Seigneur et sa maison. C'était le cas de cet homme. Et lorsqu'il voit venir son frère, Anani, voilà deux hommes pieux, deux hommes qui ont Jérusalem à cœur, qui se rencontrent. C'est exactement ce qui a été évoqué en Malachie, ils parlent l'un à l'autre. Deux hommes qui parlent l'un à l'autre avec ceux qui les accompagnent, et nous verrons au chapitre 7, si nous y parvenons, au chapitre 7, qu'Anani était un homme de qualité spirituelle, il est dit de lui au verset 3, un homme fidèle qui craignait Dieu plus que beaucoup d'autres. Et voilà deux hommes qui craignent Dieu. C'est exactement Malachie, les résidus de Malachie. Ils craignent l'Éternel, ils parlent l'un à l'autre. Comment donc l'Éternel ne serait-il pas inattentif? L'Éternel a été attentif. Ce sont des cœurs précieux à celui du Seigneur, à celui de Dieu. Ils parlent l'un à l'autre. Jérusalem, le peuple est dans un état misérable, lamentable. Est-ce qu'ils vont s'asseoir pour critiquer le peuple? Et dire ça ne nous étonne pas. Ça devait arriver. Si nous étions là, ça ne serait pas arrivé. Est-ce qu'ils adoptent une telle attitude qui si souvent nous menace? Disqualifier le peuple de Dieu et s'en dissocier lorsqu'il se trouve dans l'affliction et la misère. Nous avons deux attitudes que nous pouvons adopter. Il y a celle que traduit dans un moment de faiblesse, heureusement passager, et qui n'est pas le reflet d'une vie entière, dans la personne d'Élie. Élie qui sort de la communion, prend un chemin de propre volonté qui n'a pas été le fruit d'un exercice de prière, pour fuir, pour sauver sa vie à cause de Jézabel, et qui va nourrir son mécontentement dans la caverne. Lorsqu'il est appelé par deux fois par l'Éternel, lui disant « Que fais-tu ici ?» parce qu'il n'était pas à sa place. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va prononcer par deux fois, mot pour mot, un réquisitoire contre le peuple. « Ils ont été infidèles, ils ont transgressé la loi, ils ont tué tes prophètes, etc. » Et ensuite, alors, se mettre lui en évidence, « Je suis resté moi seul. » C'est l'attitude d'un croyant qui n'est pas à sa place et dont les affections se sont, dans le cas d'Élie momentanément, mais détachées du peuple lui-même. Il s'est dissocié. Mais ici, nous avons quelque chose qui est en accord avec l'attitude d'un Daniel, d'un Esdras et d'un Némie ici donc, qui tous trois, au nombre d'autres fidèles, qui souffrent, et combien Paul n'a-t-il pas souffert à cause des états des assemblées, ils souffrent, ils pleurent, ils mènent deuil. Il ne faut pas confondre deux choses. Se dissocier du mal et s'identifier avec un peuple infidèle sont deux choses distinctes. Nous avons les deux choses à la fin d'Esdras qui a été citée au chapitre 10. Lorsqu'il s'agit de prendre sur soi la culpabilité d'un peuple infidèle, peuple duquel nous faisons partie, c'est « nous avons été infidèles » dans ce chapitre 10. Mais lorsqu'il s'agit de se séparer des infidèles, c'est alors « vous avez été infidèles ». Ce n'est pas une critique, mais nous devons nous séparer de vous parce que vous êtes infidèles. Mais avant cela, nous avons mal agi, nous avons été infidèles. Une âme qui souffre, une âme qui mène deuil, une âme qui pleure à cause de l'état du peuple. Il y a ces deux attitudes. Elles démontrent le niveau et la nature de notre attachement à Christ et à son assemblée. Il y a bien des lacunes, bien des misères. Ne pourrions-nous pas dire aujourd'hui que le témoignage de Dieu est dans une grande misère? Ne pourrions-nous pas dire aujourd'hui que les murailles figurent de la séparation de ce monde, que les portes qui devraient nous tenir à l'abri de tout élément étranger, corrupteur qui y pénètre, ne sont pas détruites en ruines et brûlées par le feu, dans un temps où l'élargissement, où la conformité au monde et où l'abandon progressif de la part malheureusement de beaucoup, mais pas de tous, des vérités qui constituent un critère déterminant quant au témoignage, ne sommes-nous pas dans une grande misère? Quelle attitude adoptons-nous? Quelles sont les pensées et les dispositions de nos cœurs? Menons-nous deuil? Pleurons-nous et supplions-nous le Seigneur? Ou adoptons-nous l'autre attitude si regrettable?
Néhémie est un homme d'action. un homme énergique, et cela se verra tout au long de son livre. Mais c'est en même temps un homme de prière, un homme, on dirait, de cabinet, un homme qui sait se retirer seul avec son Dieu. L'un n'échoue pas l'autre. Les deux caractères vont ensemble. On trouve cela aussi chez Moïse, à qui nous l'avons déjà comparé. Moïse, homme d'action s'il en fut, eh bien c'est un homme que l'on voit continuellement s'adresser à son Dieu. Moïse est un homme de prière. Mais il y a là peut-être une différence avec Moïse, qui est en faveur de Néhémie. Quand Moïse a choisi d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, nous savons qu'il est parti avec toute son énergie naturelle et puis qu'il a tué un Égyptien et que ça a retardé son service de 40 ans. Il a fallu qu'il aille perdre cette énergie charnelle, qu'il désapprenne en fait ce qu'il avait appris à la cour du Pharaon. Ça a été long, une dure leçon. Néhémie ne se met pas immédiatement en route, ne se précipite pas. Nous voyons informé ici, c'est le mois de Kislev, et on nous dit que le mois de Nisan suit, et qu'entre le mois de Kislev et celui de Nisan, 4 mois s'écoulent. Donc, il va mettre bien du temps avant de se mettre en route. Il sait attendre. C'est un homme patient. Et ce temps est mis à profit pour la prière, comme nous le voyons. Si il est informé, il porte cette information sur son cœur, seul avec son Dieu. Et toute cette préparation est nécessaire à ce qui va suivre. On voit que c'est un homme qui souffre, et cela se voit même sur son visage, le roi le remarque, mais c'est un homme qui sait attendre le moment de Dieu, agir avec dépendance pour le service pour lequel il est qualifié.
Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des explications de ce verbe « il s'est assis » ?
Nous avons au chapitre 2 cette expression « levons-nous et bâtissons ». Donc, il semble bien que le contraste est là, on s'assied pour méditer, pour prier, pour se tenir devant Dieu. Et nous avons même l'expression « il s'assit désolé » dans le livre d'Esdras, sauf erreur. Et nous avons là comme l'homme qui attend la manifestation de la volonté de Dieu pour agir. Et puis le moment venu, alors il se lève pour agir.
Est-ce que nous avons aussi peut-être cette pensée, comme le dit, que celui qui va à la guerre s'asseye premièrement pour savoir s'il peut combattre avec tant d'hommes contre celui qui vient contre lui. Donc, calculer la dépense.
Nos frères ont été conduits à plusieurs reprises à souligner ce qu'est cet attachement au Seigneur et à l'Assemblée. Un de nos frères a même rappelé tout à l'heure Apocalypse 21 dans ses versets 9 et suivants. Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il m'emporta en esprit sur une grande et haute montagne, me montra la sainte cité Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Il nous paraît qu'il y a un appel tout particulier dans ce qui a été lu et rappelé jusqu'à maintenant. Mais nous avons grand besoin, nous aussi, en face de la ruine, grand besoin de monter sur la montagne. Il est question de l'épouse, celle qui a une relation éternelle avec lui. Il est question de la femme de l'agneau. Elle est donc le fruit de sa souffrance. Mais pour réaliser ce qu'est l'assemblée, selon la pensée de Dieu, il faut monter sur la montagne. Il me semble que cet après-midi, c'est un appel tout particulier. Comment pourrais-je être engagé pour le Seigneur, pour son assemblée, si je ne vois pas les choses par sa grâce du haut de la montagne?
C'est un vaste et précieux sujet de méditation que de considérer le fait d'être assis. Non seulement dans le psaume 139, on a cette question, « Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, mais où sommes-nous assis ?» Et on pourrait négativement parler d'un Lot où il était assis, d'un Josaphat avec qui il s'est assis, d'un Pierre où il s'est assis pour voir la fin. Mais alors en contraste, un Moïse assis sur la montagne, type de Christ intercédant. Et tant d'autres encore, d'un Esdras et Néhémie, nous voyons tous deux assis, d'une Ruth assise au pied de Boaz pour être nourrie, ou de Marie assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Où sommes-nous assis? Mais le Seigneur sait où nous sommes assis. Mais ici, n'avons-nous pas cette réflexion qui traduit un exercice de cœur, qui enlève toute spontanéité irréfléchie, qui pourrait être inconsciemment peut-être une disposition naturelle ou charnelle? On pense nécessairement à Ézéchiel qui, au début de son livre, s'assied stupéfait 6 jours avec ceux de son peuple avant de leur parler. Cette expression d'une pleine dépendance pourrait conduire véritablement à dire les paroles que l'Éternel mettra dans sa bouche.
On a parlé tout à l'heure de Moïse et de Néhémie, mais il faut bien se souvenir que si le ministère de Néhémie a duré 10 années, le ministère de Moïse a été très très long, et la préparation et la formation étaient très longues. Dieu forme ses serviteurs, et ensuite il les pousse dans la grande moisson. C'est tout à fait inexact de dire qu'il les suscite. Il est dans le secret, il les forme. Et la formation, elle dure jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il nous retire, où il dit, ben, c'est assez. Mais la formation dure toujours. Mais il y a une préparation avant que Dieu nous pousse enfin dans la grande moisson pour accomplir le service qui nous a été confié.
Quand nous considérons le peuple de Dieu du haut des rochers, c'est un peuple séparé. Pour Dieu. C'est un peuple qui est justifié, c'est un peuple qui est beau à Dieu, et c'est un peuple pour lequel il y a un avenir qui le lie à son Messie, à son Dieu, pour ainsi dire. Et cette contemplation, si nous l'avons, si nous nous en jouissons, nous amènera inévitablement à constater la différence avec le spectacle qu'offre ce peuple responsable sur la terre. Et cela ne pourra se traduire que par l'attitude de Néhémie. Les vrais hommes de Dieu ne passent pas avec indifférence devant ce spectacle. Ils sont émus dans leurs entrailles, ils sont affligés, ils sont souffrants, mais ils ne sont pas découragés. Nullement, nous ne voyons pas en Néhémie la trace d'un découragement. Alors que les hommes de Juda émettent des réflexions qui traduisent un réel abattement. Mais l'homme de Dieu est comme fortifié pour traverser toutes ces étapes avec Dieu. Et dans les temps de ruine, eh bien, nous pouvons encore compter sur la fidélité de Dieu, heureusement. Et Dieu est fidèle à ses promesses, et il y a là où il y a quelques cœurs qui sont étreints par l'amour pour Dieu et pour son peuple, car les choses vont ensemble, eh bien ce peut être le début d'un réveil qui commence toujours par l'humiliation, par la constatation des faits tels qu'ils se présentent. On ne va pas les atténuer, on ne va pas les minimiser, mais on les apporte à Dieu. Ils ne vont pas constituer, pour ainsi dire, un écran entre Dieu et celui qui est exercé et affligé. Bien au contraire, les choses sont confiées à Dieu dans la prière, dans l'humiliation, dans la confession. Car nous voyons que les trois chapitres 9 d'Esdras, de Néhémie et de Daniel ont une issue glorieuse, où le peuple est incité comme un seul homme à se séparer du mal, ou bien Dieu va communiquer à ses serviteurs ses pensées quant à l'avenir éternel de son peuple. Mais alors, que faire pour nous aujourd'hui, quand sur le plan de l'Église responsable, eh bien être conscient par exemple que le déclin a commencé très tôt. J'ai contre toi, dit le Seigneur à la première assemblée, dont le nom signifie l'aimable, que tu as abandonné ton premier amour. C'est au niveau de nos affections que le déclin commence, lorsqu'elles s'affaiblissent, et nous sommes habitués à la vérité et à tout ce qui nous est communiqué par les instruments que Dieu peut employer encore aujourd'hui, et ces vérités ne pénètrent pas nos cœurs et nos consciences en profondeur, si bien que nous nous habituons à l'état de choses morales et spirituelles qui déshonorent le Seigneur. Alors, il nous faut toujours revenir à l'Écriture. Le vrai critère pour apprécier tous les faits qui se déroulent au sein du peuple de Dieu, c'est toujours sa parole. Et il y a eu tout près de nous, au siècle dernier, une assemblée qui est tout à fait remarquable, caractérisée par cet amour des frères, à l'égard de laquelle le Seigneur n'a aucun reproche à faire. Et il lui dit, eh bien, tu as peu de force. Dès que nous pensons avoir quelque force, eh bien, nous nous détachons de cette parole du Seigneur. Et aujourd'hui, il semble que dans certaines activités, nous donnions l'impression que nous avons de la force, alors que ce n'est nullement le cas. Le Seigneur confie son témoignage, c'est-à-dire la proclamation de la vérité sur tout ce que Dieu pense, sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait. Il confie son témoignage à une minorité. C'est une constatation que nous pouvons faire au sein de la chrétienté. Mais c'est par ce témoignage qu'il a quelque chose à dire à tous les hommes, et en particulier aux chrétiens professants qui sont tout proches de nous et qui, si Dieu ne les réveille pas dans leur cœur et leur conscience, sont perdus. Lorsqu'ils n'ont pas la vie, lorsqu'ils se contentent de la profession chrétienne sans le travail de cœur et de conscience que produit la parole par le Saint-Esprit dans un cœur préparé par Dieu lui-même. Alors, tu as gardé ma parole. Deuxième point, tu as gardé ma parole. Il n'est pas dit tu connais ma parole. La connaissance existerait à certains égards, et encore, on peut se poser bien des questions. Que faisons-nous des dons écrits que nous avons si librement à notre disposition? Quelle place ils tiennent dans notre méditation pour nous faire apprécier toujours plus la parole de Dieu? C'est le but de ces dons écrits, comme les dons oraux que le Seigneur maintient pour l'accroissement de son assemblée aujourd'hui encore. Eh bien, que faisons-nous de ces dons? Comment les apprécions-nous? Quelle valeur ils ont pour nos cœurs? Le Seigneur le sait, nous ne pouvons pas lui cacher cela. Eh bien, tu as gardé ma parole, c'est-à-dire, tu en as joui, mais en même temps, tu l'as pratiqué. Tu as été obéissant à ma parole. Voilà ce qui plaît au Seigneur, l'obéissance à la parole. Et aujourd'hui, toute désobéissance avouée au milieu de nous est un outrage à l'amour du Seigneur. Et nous sommes appelés à être fidèles à l'Écriture, à toute l'Écriture et à rien qu'à l'Écriture. Gardons-nous de penser que certains principes divins qui traversent toute l'Écriture et qui sont plutôt donnés dans l'Ancien Testament n'auraient pas une valeur morale et spirituelle pour aujourd'hui. Ce qui était en abomination aux yeux de l'Éternel dans l'Ancien Testament, eh bien cela n'a pas changé aujourd'hui, comme on l'a déjà dit. Dieu est toujours et le même, c'est un nom de Dieu. Et le troisième point, tu n'as pas renié mon nom. Le nom de qui? Eh bien du Saint et du Véritable, de celui qui est séparé de tout mal, de celui qui est la vérité et qui désire bénir son peuple en le réunissant autour de lui. C'est là véritablement que nous pouvons être heureux lorsque nous jouissons de la présence du Seigneur et que le Saint-Esprit opère dans tous les cœurs pour les faire battre à l'unisson, soit dans la louange, soit dans la réception de la vérité telle que le Saint-Esprit peut la communiquer par les dons qui sont maintenus au sein du peuple de Dieu. Eh bien, nous mesurons nos écarts à travers ces critères-là. Et c'est toujours l'Écriture qui doit nous conduire et nous guider. Et nous voyons combien Néhémie, lorsqu'il fait allusion à la fidélité de Dieu, peut dire « Je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui garde tes commandements. » Et plus loin, nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandées à ton serviteur Moïse. Il revient à ce qui est dès le commencement, et c'est ce que nous avons à faire aussi moralement et spirituellement, revenir à la pensée initiale de Dieu, à ce qu'est le peuple de Dieu à ses yeux, et comment il peut le bénir si nous tolérons le mal dans une assemblée. Eh bien, nous allons nous affaiblir, et peut-être même disparaître comme témoin du Seigneur. Il y a des assemblées qui disparaissent aujourd'hui parce que le Seigneur est fidèle et qu'on n'a pas veillé au maintien de ses droits. Mais s'il y a quelques cœurs qui, conscients de la faiblesse et de l'état de ruine, s'humilient profondément devant Dieu, pleurent aux pieds du Seigneur, le Seigneur ne peut pas ne pas être sensible à ce qu'expriment de tels cœurs. Et ce pourra être pour une assemblée à l'origine d'un nouveau réveil, d'un nouveau départ et une joie partagée par tous les saints réunis sur le terrain de l'unité du corps de Christ.
Posons sans mettre fin à l'étude de chanter les quatre premières strophes du cantique 71.
Yeah. fait si quelquefois un
nuage vient me dérober ta beauté, ami divin. Après l'orage, comme avant, brille ta clarté. De toi que rien ne me sépare, ô mon sauveur, enseigne-moi si de nouveau mon pied s'égare à revenir bientôt à toi. Chantons la 7e strophe. Néhémie est un homme qui a la vraie crainte de Dieu et qui ne craint pas les hommes. Ici, quand il s'agit de rencontrer le roi, et nous voyons qu'il s'y apprête dans le verset 11, « Donne-moi de trouver miséricorde aujourd'hui, fais réussir aujourd'hui ton serviteur. » Il est donc bien conscient que le moment de rencontrer le roi est là, mais comment l'appelle-t-il? Donne-lui de trouver, parle de lui-même, n'est-ce pas, de trouver miséricorde devant cet homme. Ce n'est qu'un homme, le plus grand roi de la terre du moment, mais pour lui c'est un homme. Et Dieu est celui qui incline le cœur des rois comme des ruisseaux d'eau, ça nous est dit en Proverbe 22. Eh bien, c'est de Dieu que tout dépend. Il a entendu la prière de son serviteur, l'humiliation qu'il a prise sur lui, et voilà, le moment est venu. Tous ces 4 mois se sont passés, puisque aussitôt qu'il a eu entendu les paroles au verset 4, il s'est assis et a pleuré. Ces 4 mois se sont passés devant Dieu, maintenant il va être devant le roi. Et l'attitude qu'il a alors au chapitre 2 montre qu'il est d'abord devant Dieu avant d'être devant le roi. Comme une petite remarque tout à la fin du chapitre, « Or j'étais et chansons du roi ». Nous n'avons de sa part aucune vanité quant à cette position. Bon, ça est dit incidemment, voilà, comme pour expliquer ce qui va suivre. Il ne met pas sa position sociale en avant. J'étais les chansons du roi, je vais donc avoir l'occasion de me trouver devant lui et de me confier en Dieu pour que la prière de mon cœur puisse être exaucée en faveur de ce peuple.
Est-ce que se vérifie pour les enfants de Dieu qui mettent vraiment leur confiance dans le Seigneur? On voit un premier épître de Jean, chapitre 5, verset 14. Et c'est ici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. La conscience qu'effectivement Néhémie demandait une chose selon la volonté de Dieu, il avait la pleine conviction. Et nous savons par la suite que véritablement Dieu a exaucé sa prière, car elle était selon sa volonté.
Il est beau de voir l'humilité de ce serviteur dont les affections les plus vives sont engagées pour l'Éternel et sa maison et son peuple, et qui peut dire dans cette confession, déjà rappelée, « Moi aussi ». Et la maison de mon père, nous avons péché. Moi aussi. Quelle différence avec des dispositions de condamnation, de critique, de supériorité, qui si facilement entrent dans nos cœurs. Moi aussi. comme Esdras, il s'est assis où était son peuple, non pas au-dessus, s'identifier. Et il leur rappelle les paroles qui n'ont pas été gardées. Nous avons très mal agi contre toi, nous n'avons pas gardé les commandements, les statuts. Ce terme de garder est en quelque sorte une expression qui jalonne toute la parole et qui conditionne l'état spirituel de ceux auxquels la grâce de Dieu confie des valeurs. Et cela depuis le début de la Genèse, depuis le jardin d'Éden jusqu'à la fin. Que devait faire Adam dans le jardin de Délice? Il devait le cultiver et le garder. Il n'était pas demandé d'autre chose. Cultiver et garder. Nous est-il demandé autre chose quant aux bénédictions spirituelles, si ce n'est de les cultiver et de les garder? Israël n'a pas gardé la loi que tu n'as pas gardée. Et nous pourrions multiplier les reproches faits dans tous les temps de la responsabilité du peuple à cet égard. Il n'a pas gardé. Et on l'a dit, on l'a entendu tout récemment, le certificat divin à l'égard d'une assemblée fidèle comporte cette appréciation de Dieu. Tu as gardé ma parole. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas gardé? Ils n'ont pas gardé les commandements, les statuts qui ont été donnés ou ordonnés au temps de Moïse. Mais Moïse, il y a 1000 ans qu'il est mort. Et pourtant, la parole qui était donnée au temps de Moïse a exactement la même valeur en un temps de ruine qu'était celui d'Esdras et Néhémie. Cette parole donnée à Moïse. On revient toujours à l'origine, à ce qui est dès le commencement, comme dit l'apôtre Jean. Et lorsqu'Agé a réveillé le peuple, il a été ce messager si remarquable pour apporter des ressources, car n'oublions pas que le ministère d'un messager, d'un instrument dans la main de Dieu à l'égard de son peuple, c'était la part des prophètes, ce n'est pas seulement de les condamner, mais aussi de leur présenter des ressources pour sortir de cet état. Et les trois déclarations d'Agé dans son message si percutant, si précis, mais combien précieux, il leur rappelle la présence divine. Je suis avec vous. Ma parole et mon esprit demeurent avec vous, ne craignez point. Ils sont repris sévèrement parce qu'ils ont abandonné la maison de l'Éternel, ils courent à leur propre maison, et à cela l'ennemi n'a posé aucun obstacle, pourvu qu'on ne s'occupe pas de la maison de Dieu. Mais il leur donne trois ressources précieuses. Et aujourd'hui, avons-nous besoin d'autres ressources que celles du temps d'Agé? Je suis avec vous, ma parole et mon esprit. Et il rappelle cette parole en disant, la parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte. Ce n'est pas une nouvelle parole adaptée aux circonstances du moment, mais la parole donnée en Horeb. Et nous avons exactement la même pensée ici. La contrition, l'humiliation, la confession de Néhémie, nous n'avons pas gardé la parole ou les commandements qui ont été ordonnés à Moïse. Et il y a 1000 ans de cela. Il nous semble que si d'une part nous avons dans ces passages des enseignements des plus sérieux, des plus actuels, des plus précis, qui s'adressent avec force à nos consciences, combien il est souhaitable aussi qu'il s'adresse à nos cœurs. Car ce qui brisera toujours le cœur, c'est la grâce. Un Élie était un homme intrépide, un homme qui ne craignait rien. Pour lui, les tremblements de terre, le vent impétueux, tout cela, c'était en rapport avec sa nature, ça ne le brise pas. Mais la voix subtile le conduit à envelopper sa tête dans son manteau. La voix subtile. Et par ses enseignements, on peut dire que l'Esprit veut parler à nos cœurs. Et si les enseignements sont sévères, si les répréhensions qui s'adressent à nous, que nous avons entendues, que nous exprimons sur la base de ces passages, sont très sérieuses, Dieu veuille qu'il en résulte surtout une action de son Esprit sur nos cœurs pour que nos affections les plus vives soient engagées pour Christ et pour son assemblée. Si nous la regardons du sommet de la montagne, comme on vient de l'entendre, nous verrons ce qu'elle est pour Christ. Si nous la regardons sur le plan de sa responsabilité, nous verrons ses lacunes, et si nous sommes attachés à Christ et à son assemblée, si nous sommes spirituels, nous souffrirons, nous ne critiquerons pas. Ne confondons jamais les deux choses. Plus on est détaché dans nos affections, plus nous aurons un sentiment de jugement. Plus nous sommes engagés dans nos affections pour Christ et son assemblée, plus nous souffrirons pour le peuple de Dieu, pour la gloire du Seigneur dans son sein, et nous adopterons ces attitudes d'ennemis qui prient, qui supplient, qui implorent la grâce de Dieu. Et si nous n'avons pas, comme devait être Jérusalem pour l'Israélite pieux qui devait la placer au-dessus de la première de ses joies, si nous n'avons pas Christ et son assemblée comme occupant les prémices de nos affections, alors que le Seigneur lui dit nous-mêmes que connaissant les lacunes, les voyant beaucoup mieux que nous, les lacunes de son témoignage, il ne cesse de nourrir et de chérir son assemblée, si nous ne la chérissons pas dans nos cœurs, nous sommes plus difficiles que lui.
Cette attitude d'humilité de Néhémie ressort, on a dit, de plusieurs choses, mais encore de comment il se présente lui-même et les fils d'Israël dans sa prière. Au verset 6, il dit « Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur, que je fais aujourd'hui devant toi jour et nuit pour les fils d'Israël, tes serviteurs. » C'est beau de voir, on l'a déjà souvent souligné, mais là on le voit d'une façon pratique, comment Néhémie s'identifie, prend avec lui le peuple. Il est un serviteur de l'Éternel, et nous sommes tout prêts, si nous osons parler comme ceci, à lui donner ce titre. Mais les fils d'Israël qui étaient là, vers qui il est venu? Nous avons rappelé tout à l'heure que peu avant, nous savons que Agé et Zacharie ont prophétisé du temps d'Esdras, nous le voyons au chapitre 5. Agé avait dû montrer à ce peuple que s'ils avaient arrêté de construire la maison, ce n'était pas tellement à cause des menaces et de l'édit du roi, mais c'était parce qu'ils étaient intéressés par autre chose, par leur propre maison. Et c'est en leur parlant comme ceci qu'il les avait remis à l'œuvre. Et ici, on voit Néhémie qui les appelle devant l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel, quand il intercède pour eux. Le peuple est ainsi. Et plus loin, il dit aussi, il ne se croit pas seul. Il dit au verset 11, « Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. » Il savait qu'il y avait d'autres qui étaient avec lui, qui priaient avec lui. Et c'est très beau de voir cette attitude de Néhémie. C'est vrai qu'à la fin du livre, il a été fait allusion à ce fait. Il arrache les cheveux à quelques hommes et qui avaient repris des femmes étrangères, alors qu'à la fin d'Esdras, il y avait eu déjà une intervention, il est vrai, tout autre d'Esdras, mais c'était le deuxième cas en peu de temps. Et j'aimerais encore juste souligner une chose, il est vrai qu'il se réfère à Moïse. Et c'est une chose importante à souligner. Parce que c'est juste, dans un sens, ça nous montre ce que nous avons entendu. La parole est immuable, nous ne pouvons pas la changer, elle est éternelle, elle est permanente. Mais dans un autre sens, chaque fois qu'il est fait allusion, référence à Moïse, cela signifie que le peuple est encore sous la responsabilité. Ce n'est pas encore le temps où Dieu rétablira toutes choses. Et nous voyons en Lévitique 26, quand toutes les malédictions sont prononcées contre le peuple, tout à la fin, au verset 40, il est dit... Au verset 41, « Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils acceptent la punition de leur iniquité, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob et aussi de mon alliance avec Isaac, et je me souviendrai aussi de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai de la terre. » Quand le Seigneur viendra, eh bien effectivement, toutes choses seront rétablies parfaitement. Et ici, il permet des réveils, il permet des restaurations partielles. Mais nous voyons dans le livre de Zacharie, qui est donc en même temps un peu contemporain d'Agé, qui nous pouvons voir cela au début d'Esdras 5, c'est ces deux prophètes qui ont encouragé le peuple à terminer la construction de la maison. nous voyons à plusieurs reprises dans le début du livre qui nous parle des circonstances de la reconstruction du temple, en contraste avec les derniers chapitres qui nous parlent alors vraiment de l'avenir. Mais nous voyons par exemple au chapitre 6 de Néhémie, quand il les encourage, de Zacharie, pardon, il dit au verset 15, « Et ceux qui sont éloignés viendront et bâtiront au temple de l'Éternel, et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous, et cela arrivera si vous écoutez fidèlement la voix de l'Éternel votre Dieu. » Nous voyons, tant que ce n'est pas encore le moment pour que le Seigneur rétablisse toute chose, il permet un rétablissement, mais nous voyons là, en relation avec le peuple, cela reste sous sa responsabilité. Mais alors on a dit, il y a pour notre cœur. Néhémie s'adresse au Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible. Dans le sens que c'est celui qui doit être craint, qui est craint. Et nous retrouvons cette expression en relation avec le jour de l'Éternel, nous pouvons le voir à la fin de Malachie. Et là nous comprenons que le jour de l'Éternel soit grand et terrible, il porte les mêmes caractères que l'Éternel. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que dans le livre du Deutéronome, ces expressions sont en relation avec le désert. Au verset 15 de Deutéronome 8, « Dieu qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible. » Et en effet, ce désert qui est en relation avec notre responsabilité, combien il est grand et terrible. Mais Dieu est grand et terrible. Et même plus que cela, nous voyons 1 Jean 4, au verset 4, « Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Le désert est grand et terrible. Le désert, il est là, nous le voyons en Deutéronome 8, pour nous éprouver. C'est vrai, pour nous faire du bien à la fin, mais pour nous éprouver, pour que nous voyons ce qu'il y a dans notre cœur. Eh bien, si ce désert a ses caractères, Dieu, d'une façon beaucoup plus grande et précieuse, a ses caractères pour nous conduire à travers ce désert.